Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, l'errant chérubinique.
Tous ceux qui s'intéressent au XVIIe siècle spirituel connaissent sans doute le nom de Angelus Silesius, ou plus exactement le surnom de cet Allemand de la Silésie, Angelus Silesius, voulant dire précisément l'ange de la Silésie. Son opus majeur a souvent été déjà traduit en français, parfois comme le pèlerin chérubinique, parfois comme l'errant, parfois comme le vagabond chérubinique, renvoyant évidemment au mot allemand dans lequel on trouve Wandlung, qui suppose précisément la voie que l'on prend, ou le chemin que l'on prend vers un horizon éventuellement inaccessible, et le suffixe « ung » montrant qu'il y a un processus en cours, comme par exemple dans la Bildung, qui est le processus de formation. Donc là, c'est le processus selon la manière dont on prend la route pour aller vers le Dieu et vers le Dieu inconnu. Jusqu'ici, il y a déjà eu plusieurs traductions. À la limite, d'ailleurs, on ne les compte même pas, tellement il y en a une. La plus remarquable étant certainement celle de Roger Munier. Mais voici qu'une nouvelle traduction, tout à fait extraordinaire, paraît par Jérôme Tello sous le titre « Le voyageur chérubinique » aux éditions de l'Encre Marine. Et pour y réfléchir, nous avons avec nous justement Jérôme Tello, qui est professeur de littérature germanique à l'Université Jean Moulin Lyon 3, et en même temps Jacques Lebrun, qui est directeur d'études honoraires à l'École pratique d'hautes études dans la section des sciences religieuses. Jacques Lebrun, qui est précisément un spécialiste du XVIIe siècle mystique, XVIIe siècle français d'abord. On connaît toute l'école de spiritualité française qui commence avec Saint-François de Sales et qui va se terminer avec Madame Guyon, mais beaucoup plus largement, évidemment, de tout ce qui concerne la spiritualité en Europe. Et Jacques Lebrun, qui a été par ailleurs l'auteur de ce livre tout à fait remarquable, Le pur amour, de Platon à Lacan, aux éditions du Seuil.
Qui était Angelus Silesius? C'était le fils d'une famille de patriciens qui commerçait là-bas, à Breslau. Et il se trouve qu'il a perdu son père et sa mère assez tôt. Enfin, pas si tôt que ça, mais disons dans l'adolescence, ce qui n'est pas rare à l'époque, évidemment. Mais en tout cas, que les témoignages le présentent comme ayant été un jeune homme fort mélancolique. C'est une dimension relativement importante parce que le mélancolique est celui qui, disons, déprécie trop rapidement l'existence ici-bas en vertu de l'idée qu'il se fait de ce que l'humanité devrait être. Et il y a dans le mélancolique bien souvent la dévalorisation du monde qui nous est donné, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec la vocation mystique que ce mélancolique-là, en tout cas, sentira à un moment donné de son expérience. Bref, jeune homme, il est assez angélique pour que ses camarades le surnomment Angelus, et assez mélancolique pour qu'il se consacre à des études sévères, sérieuses, puissantes, dans un milieu de protestants très contradictoire. Contradictoire parce que ce que le protestantisme avait eu de si inventif et jeune et vigoureux le siècle précédent, là-bas en Silésie se tasse manifestement, et les pasteurs protestants font montre justement d'arrogance, de suffisance et de dédain pour leurs ouailles. Il y a là une manière de ressentiment d'un certain monde protestant, et ce n'est pas sans lien avec la pénétration alors conjointe dans les années 1640-1650 d'une sensibilité catholique en Silésie.
C'est l'homme d'un des moments peut-être les plus tragiques du XVIIe siècle, la Silésie, la guerre de 30 ans. C'est quelqu'un qui a vécu lui-même, qui a bâti lui-même la division des confessions religieuses, la lutte des confessions religieuses, qui a souffert de la guerre, de tous les problèmes qui se posaient dans ces milieux des confins germaniques au début du XVIIe siècle. Angelus Silesius est un personnage qu'on pourrait appeler, dire vraiment tragique. Et je crois que son œuvre ne se comprend que comme cela. En effet, c'est quelqu'un qui a eu une évolution qui ne peut se comprendre que par le milieu et le moment où il a vécu.
Il faisait ses études comme on les faisait jadis, en changeant de ville en ville. Il est revenu de ce séjour de 6 ou 7 ans à l'âge de 24 ans et il était donc médecin. Médecin, philosophe, comme on était à l'époque, médecin plus ou moins occulte, plus ou moins occultiste, veux-je dire. Et alors, il a été employé par différents princes de Silésie. Et c'est à partir de 1650-1651 qu'il s'est découvert ce qu'il est pour nous, évidemment, c'est-à-dire un écrivain spirituel. Pourquoi s'est-il découvert un écrivain spirituel ? Parce qu'il était l'un des disciples, au fond, d'un esprit de second plan, mais qui a joué un rôle considérable tout de même en Silésie à ce moment-là, qui était Frankenberg. Frankenberg était lui-même un disciple de Jacob Böhm. Et c'est comme disciple de Jacob Böhm que Frankenberg avait une bibliothèque formidable, dont Angelus Silesius, et pas lui seulement, quelqu'un comme Sebco, par exemple, a profité. Et donc, en effet, il a découvert Jacob Böhm par là, d'une part, et aussi Tauler, et aussi toute la suite d'ailleurs de la mystique rhénane. C'est d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est Orcival qui avait montré ça. Il y a dans l'édition de Tauler que lui a donné Frankenberg des textes de Maître Eckhart. De sorte qu'on sait qu'Angelus Silesius a lu et de près certains textes de Maître Eckhart, alors que lui-même ne sut sans doute pas que c'était du Maître Eckhart. Alors bon, il écrit. À partir de 1651-52, quoi ? Eh bien, des alexandrins allemands. C'est d'abord cela qu'il faut dire. Des alexandrins allemands, d'un moment où la langue allemande, d'ailleurs, comme on l'appelle baroque, disons, se renouvelle beaucoup, des alexandrins allemands sous la forme d'épigrammes. Autrement dit, de poèmes, disons plutôt de très courts poèmes, de deux vers chacun, en alexandrin rimant. Dans ces poèmes, il essaie de mettre, disons, un peu comme toute la mer dans le coquillage d'Augustin, le plus possible de la divinité ou de la surdivinité dont il a l'idée. L'idée que, plutôt que l'expérience, c'est un poète mystique, c'est une affaire entendue, mais c'est un poète davantage spéculatif que expérientiel, si je puis dire. C'est un poète qui ne connaît guère, ou peut-être pas du tout, la sorte d'expérience dite mystique, la sorte d'extase qu'il sait que d'autres que lui, dans le passé de la mystique rhénane, ont pu avoir.
Angelus Silesius est pratiquement le contemporain de Pascal. Il est né en 1624, je crois Pascal en 23. Donc ils sont absolument contemporains de Pascal. Angelus Silesius naît dans ces confins orientaux de pays germaniques. Angelus Silesius naît dans des milieux, un milieu protestant, lettré, un milieu éclairé. Il est passionné par l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire la science de l'Antiquité, des textes. Lorsqu'il a de ses premiers textes que l'on a d'Angelus Silesius, porte cette devise « Mein Ziel ist Wissenschaft ». Mon but, c'est la science. Et il écrit ça donc dès 1642, il a 18 ans. La science, à l'époque, c'est la science au sens des humanistes, c'est-à-dire l'érudition, la connaissance. Mais très vite, Angelus Silesius perçoit que ces milieux protestants dans lesquels, luthériens, dans lesquels il vit, dans lesquels il est plongé, sont de plus en plus sclérosés. Le protestantisme, selon Angelus Silesius, à cette époque, est devenu une orthodoxie et est devenu une scolastique. Et cela, jeune homme qui a vécu dans différents milieux, qui a été à Padoue, qui a été à Leyde, qui a connu la plupart de ces grandes universités européennes dans lesquelles se formait la pensée moderne, s'aperçoit que ces milieux luthériens protestants sont des milieux sclérosés. Il cherche autre chose, il cherche d'un côté donc l'érudition, d'un autre côté il cherche une expérience religieuse authentique. Et là, il ne la trouve pas dans cette église luthérienne. Peu à peu, il est en liaison avec des milieux dans lesquels, comme avec Frankenberg par exemple, un de ses grands amis, dans lesquels la pensée de Jacob Böhm s'est développée. Jacob Böhm, ce mystique très obscur, avec des éclats absolument fulgurant, une pensée difficile à comprendre, mais qui ouvre des horizons quelquefois assez inquiétants, mais toujours passionnants. Jacob Böhm lui donne une ouverture sur ce que pourrait être la mystique. De là, il lit la plupart des textes de la tradition mystique réno-flamande. Il lit Ruysbroeck, il lit Arfius, il lit Tauler, et il lit également les mystiques catholiques de l'école espagnole, de l'école carmélitaine. Et tout cela en étant encore protestant, luthérien. Il cherche donc quelque chose d'autre. Il cherche en quelque sorte à renouveler le protestantisme de l'intérieur par le recours à toute une tradition beaucoup plus large, une tradition mystique, à la fois une tradition mystique authentiquement protestante, celle de Jacob Böhm, ou une tradition mystique catholique qui séduit alors un bon nombre d'esprits en dehors même des milieux catholiques stricts. À ce moment-là, il élabore son œuvre. Il élabore son œuvre, c'est-à-dire il élabore cet ensemble, les premiers livres, les cinq premiers livres de ce que seront ces distiques. Ces distiques qui prendront plus tard le nom du pèlerin chérubinique, Cherubinischer Wandersmann. À l'époque, donc, Angelus Silesius écrit ces fulgurants distiques ou courts poèmes quatrains. Et il se convertit en 1653. Là, il se convertit par résultat de tout ce long mouvement, comme si c'était par l'intermédiaire de la mystique et qu'il se convertissait au catholicisme, espérant trouver là un épanouissement pour ce qu'il espère, et ce que le protestantisme ne lui a pas donné. Il rejoint là tout un mouvement d'ailleurs de la contre-réforme catholique et qui pensait, et non sans raison, avec François de Sales par exemple, qu'il était possible de doubler en quelque sorte le protestantisme par l'intermédiaire de la mystique, par une sorte de surenchère de vie spirituelle, de penser que le protestantisme ne serait pas combattu par des arguments rationnels ou théologiques, mais en quelque sorte par une surenchère de vie spirituelle, et par l'intermédiaire de la mystique, cela permettrait de montrer au protestantisme qu'il y a dans le catholicisme quelque chose qui permet de satisfaire, de combler les besoins de religion des âmes à cette époque.
Gott ist in dir, das Leben. Nicht du bist, der da lebt. Denn das Geschöpf ist tot. Das Leben, das in dir dich leben macht, ist Gott. Ce n'est pas toi qui vis, car le Créé est mort. La vie qui en toi te fait vivre est Dieu.
Comment voit-on Dieu ? Dieu habite en un feu auquel manque l'accès. Qui ne devient le feu ne le verra jamais. Comment jouir de Dieu ? Dieu est un unique un. Qui veut jouir de sa joie ne doit pas moins que lui en lui-même s'enclore.
Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une imperception divine qui trouve aussi bien son correspondant dans le début du Mysterium de Jacob Böhm, lui-même bon protestant, enfin, encore que très combattu par son pasteur, mais qui trouve aussi bien son correspondant dans la théologie négative, où disait Tauler, on remonte à notre écart, etc. Donc on a l'impression que là, il y a quand même quelque chose, je dirais, dans l'ordre de l'intelligence, qui relève précisément de ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire la théologie qui dit de Dieu, on ne peut rien dire.
Absolument. Il y a chez lui une façon de butiner dans toute l'histoire de la mystique, depuis Augustin, qu'il connaît parfaitement, en passant par Denis l'Aréopagite et jusqu'à Böhme, comme nous venons de le dire. Et en effet, il y a là une intelligence de la surdéité qui passe le concept. Une intelligence de ce dont l'intelligence est incapable, en quelque sorte. Ou alors, disons plutôt une intuition de ce qui excède les représentations. À ce titre, le Dieu dont il s'agit excède, outrepasse totalement tout concept de Dieu et ne s'atteint que, oui, négativement. Alors, un aspect de la négation par laquelle il faut que l'esprit passe pour témoigner de l'absolu, c'est certainement chez lui le vers. Le vers, c'est en cela qu'il est d'abord poète. Le vers est ce qu'il a en propre, je dirais, Angelus Silesius, car c'est en effet l'instrument de la négativité de sa théologie négative. En effet, le vers chez lui est si, comment dirais-je, rigoureusement observé. Les 2x12 syllabes rimantes exercent une contrainte formelle si drastique, si impérieuse, que le poète est obligé, je dirais, à des acrobaties verbales dans lesquelles le concetto est toujours fondamental. Et c'est cette difficulté de dire le plus dans, la contraction de ces 2x12 syllabes qui sert, si vous voulez, de contrainte formelle naturellement, mais donc de négation par rapport à la tentation de dire quelque chose de Dieu. Il y a dans le moule formel, comme structure préalable, l'interdit de croire que ce qu'on dira de Dieu puisse être plausible. Et du coup, c'est avec une sorte de jouissance paradoxale que le poète se tient à l'observance, pourrait-on dire, de ces 2x12 syllabes, précisément parce qu'elles l'empêchent de trop croire en sa propre pensée de Dieu, et qu'elles le rappellent que Dieu excède le discours, en effet, ici produit.
Comment devenir semblable à Dieu ? Être semblable à Dieu, c'est différer de tout, vide de soi, libre de peine.
Qu'est-ce qui a pu avoir mené Silesius à s'exprimer de cette manière-là ? Je veux dire par là, si on pense à la poésie allemande de la période baroque, je pense à des gens comme Gruffius, etc., on voit bien quand même quelle différence absolument énorme dans laquelle il y a plutôt une sorte de, disons, de surabondance du style, de surabondance des tournures. Tandis qu'avec Angelo Silesius, effectivement, on est quand même dans à la limite du pensable, à la limite du disciple.
C'est bien vrai. Le fait est que nombreux sont les distiques d'Angelus Silesius qui disent l'inexprimable, qu'il y a de l'inexprimable. Sa poétique ressortit à la poétique du sublime à cet égard. C'est une présentation dans les mots de l'imprésentable, disons.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas une manière, en même temps, je dirais, de tout le temps dire que ce n'est pas dicible et de le dire à travers l'absence ? Je veux dire, je pense à une phrase fameuse de Denis l'Aréopagite, c'est dans la théologie mystique, je me rappelle bien, dans laquelle il dit « Si tu dis qui est Dieu, alors ce n'est pas Dieu. » Et on a l'impression qu'Angelus Silesius, il est tout le temps là-dedans, c'est-à-dire bien que sûr. Dieu est tout le temps au-delà de ce qu'il en dit.
Oui, c'est bien vrai. Il y a ça constamment chez lui. Et en cela, il n'est, somme toute, qu'un mystique parmi d'autres dans l'histoire de cette théologie négative. C'est bien vrai. Pourtant, il me semble qu'il y a aussi chez lui autre chose. Parce que chez lui, il me semble qu'il y a l'idée de deux paroles, au fond. Il y a la parole qui construit les significations dans la langue et qui thématise avec celle-ci, l'extériorité du monde, les référents disponibles, bon, d'une part, ce qu'on appelle les mots, en fait. Mais il y a d'autre part, dans sa pensée, c'est assez évident, me semble-t-il, L'idée d'une autre parole, celle-ci alors, ne passant pas par les mots, mais qu'il appelle parole tout de même, ou verbe parfois, naturellement, comme tout le monde, une parole qui ne passe pas par les mots, une parole qui est, non pas représentation, mais de part en part pathétique, une parole qui est manifestation en moi de ma propre étreinte avec Dieu. Dieu se révèle silencieusement, Dieu se révèle à moi autrement que par les mots, mais d'une révélation qui n'est pas niable cependant. Et si elle n'est pas niable, c'est parce qu'elle est cette étreinte purement émotionnelle, émotive, pathétique, presque pulsionnelle, pourrait-on dire, enfin ce vocabulaire n'est pas le sien. Et donc il y a l'inaccessibilité de Dieu si l'on en passe par rien que les mots, ça c'est une affaire entendue. Et il est le descendant légitime de Denis, comme vous le disiez à l'instant, mais il y a aussi cette perpétuelle manifestation en moi du silence en lequel et comme lequel Dieu s'étreint et s'auto-engendre comme moi. C'est-à-dire que le moi que je suis et qui s'atteint par l'affection dont il est le site, ce moi que je suis est ce que Dieu produit en guise d'auto-engendrement de sa parole. Il y a concurrence, en quelque sorte, entre deux paroles chez Angelus Silesius. Et celle en laquelle Dieu se laisse entendre est parfaitement manifeste, rigoureusement une certitude. On pourrait dire chez Angelus Silesius, comme chez tous ces mystiques-là aussi d'ailleurs, qu'il n'y a pas de foi, ni de problème de foi, parce que l'immédiation pathétique en laquelle Dieu se révèle en moi et comme moi est absolument certaine, et d'une certitude plus claire que le jour, n'est-ce pas, plus claire que toutes les évidences de la conscience. Elle est d'ailleurs antérieure à toute conscience. Alors, il est possible au poème, pour autant qu'il est contracté dans une forme contraignante, de se ressouvenir de ce que les mots ne savent pas dire et de ce qu'une autre parole en deçà des mots, pourtant, elle, ne cesse de révéler. Donc je crois que le fait qu'Angelus Silesius dise, disons, la même théologie négative que Denis dans le poème n'est pas du tout adjacent, n'est pas secondaire ou subordonné. C'est le poème qui a mémoire de ce qui excède les mots. C'est le poème qui a mémoire de ce qui excède les mots et de ce qui les conditionne, et qui est cette autre parole antérieure à la verbalité en laquelle Dieu se manifeste en moi et comme moi sur le mode pathétique.
Il y a quelque chose d'un petit peu étonnant dès le départ dans la vie d'Angelus Silesius, Jacques Lebrun, c'est justement son admiration pour Jacob Böhm. Parce que si on prend la vie de Jacob Böhm, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était déjà lui-même en butte à l'église luthérienne. Enfin, il a été interdit par son pasteur pendant des années, etc. Donc, est-ce que ça n'aurait pas dû, je dirais, attirer l'attention d'Angelus Silesius ?
Oui, mais la plupart de ses auteurs que Angelus Silesius, vers lesquels il se rapporte, eux aussi ont été en but. Il n'est pas sans savoir que Arfius, par exemple, a été mis à l'index. Il n'est pas sans savoir que Maître Eckhart, le premier, lui-même, a été condamné. Que Saint Jean de la Croix, lui-même, a été emprisonné, etc. Il s'aperçoit que les mystiques, que tous quels qu'ils soient, sont eux-mêmes en but aux institutions dans lesquelles ils se trouvent. Et là, je crois que c'est quelque chose qui fait partie du tragique même de l'expérience Angelus Silesius. Il se convertit en 1653 au catholicisme. Il publie en 1657 la première édition de son Pèlerin chérubinique. Dans cette première édition, les textes sont d'une hardiesse mystique extrême et véritablement, on s'étonne même que ces textes n'aient pas été condamnés à l'intérieur du catholicisme. Sinon, le fait que nous sommes encore dans le catholicisme à une époque où la mystique n'est pas complètement sur la défensive. C'est l'époque où, par exemple, dans la Compagnie de Jésus, le général Acquaviva s'est montré assez tolérant vis-à-vis des tendances mystiques des jeunes jésuites. C'est l'époque où en France intervient ce que Brémond appellera l'invasion mystique. Donc nous sommes là encore dans ce premier ou deuxième quart, dans ce deuxième quart du XVIIe siècle, où les frontières à l'intérieur des confessions ne sont pas encore vraiment tracées, où la mystique a encore une certaine place. Et je crois que Angelus Silesius a, en 1657, lorsqu'il publie ses textes, a pu penser qu'il aurait sa place à l'intérieur du catholicisme. Mais cette mystique extrêmement hardie, extrêmement audacieuse, allant au-delà de la divinité, au-delà de ce qu'il appelle la Gottheit, au-delà de la divinité, il y a encore un au-delà, etc. Dans ce milieu, Angelus Silesius participe d'autres courants de la contre-réforme. Et je crois que en France en particulier, parce qu'il n'y a pas d'autres traductions, nous ne connaissons que ce pèlerin chérubinique. Nous ne connaissons pas les autres œuvres d'Angelus Silesius. Mais Angelus Silesius a une œuvre considérable. Ses œuvres poétiques font 3 gros volumes dans l'édition allemande. Et uniquement les œuvres poétiques. Or, ces œuvres poétiques, qui trouvons-nous ? C'est qu'en 1657, la même année où il publie ses textes extrêmement audacieux, où il dit « Oh, allez-vous-en, Séraphin, allez-vous-en, vous tous les saints, moi je veux seulement contempler l'essence, je vais... » C'est le moment où il publie un extrêmement intéressant, un long poème pastoral, poétique, sensible, intitulé « La heilige Seelenlust », la sainte joie de l'âme, le saint plaisir de l'âme, dans lesquels nous avons toute la tendresse, toute la mièvrerie même, de la contre-réforme qui s'apitoie sur les saints, sur l'enfant Jésus, sur la craie, et tout un long poème d'une affectivité débordante au moment même où il publie ses quatrains ou ses distiques, qui renvoient l'affectivité au plus bas de l'expérience religieuse. Et là, je crois que Angelus Silesius se trouve alors partagé entre ces deux tendances de la contre-réforme. D'un côté, la tendance affective, le débordement des images, une pastorale qui aujourd'hui nous paraît touchante, mais finalement un peu naïve. Et d'un autre côté, un radicalisme aussi radical que celui de Jean de la Croix.
Und warum? Die Rose ist und warum? Sie blüht, weil sie blüht. Sie achtet nicht ihrer selbst. Fragt nicht, ob man sie sieht. Sans pourquoi? La rose est sans pourquoi. Fleurit puisque fleurit. N'a souci de soi-même. Ignore qu'on la voit.
D'une certaine façon, Jérôme Tello, est-ce que nous ne sommes pas assez proches de l'une des thèses de quelqu'un comme Heidegger? Il n'y a pas très longtemps, à savoir que le poète et le philosophe disent à peu près les mêmes choses, sauf que la philosophie et la poésie ne sont pas conciliables, dans la mesure où la poésie dit sans dire et sans tout l'appareillage conceptuel qui est celui du philosophe, et où il y a, je dirais, à la fois une parenté et une dissemblance et une différence profonde entre la philosophie et la poésie, et la poésie étant peut-être, de ce point de vue-là, le comble, l'au-delà de la philosophie.
Oui, en effet. Heidegger n'est pas le seul à penser comme ça, mais en tout cas, lui, il doit pas mal à Angelus Silesius. Il l'a commenté, plus exactement, il ne l'a pas commenté, il a commenté le plus fameux des distiques, celui qui porte sur la rose, hein, sans pourquoi ou sans raison, ça dépend des traducteurs. Bon, alors oui, ce que vous dites est vrai, le fait est que le poème est une pensée à l'avant de toute pensée, parce que ce qu'il pense est à la fois sa condition et son futur. Il n'y a aucune raison pour que les philosophes n'interrogent pas constamment le poème comme la pointe avancée de toute pensée. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est Leibniz, c'est Hegel, Schopenhauer, en effet Heidegger, mais Michel Henry, beaucoup, disons, et Wittgenstein aussi, beaucoup de très grands philosophes qui ont interrogé, chacun à leur tour, Angelus Silesius. Il a compté, il a une descendance en philosophie, beaucoup plus, me semble-t-il, qu'en poésie. Encore qu'en poésie, il en a une également, à commencé par Paul Celan d'ailleurs, parce que le plus beau livre de Paul Celan à mon oreille, à moi, La Rose de Personne, Die Niemandsrose, est une manière d'évocation indirecte d'Angelus Silesius aussi.
Peu à peu, et c'est là, je crois, où le tragique même de l'expérience d'Angelus Silesius nous frappe, c'est que peu à peu, Angelus Silesius va s'écarter de cette expérience mystique radicale. Tout un aspect de l'œuvre d'Angelus Silesius, il y a des dizaines d'opuscules, des dizaines de pamphlets, il va prendre parti violemment contre tous les adversaires du catholicisme. Et de façon extrêmement violente, ce sont des pamphlets qui sont très peu connus, parce qu'il n'y en a qu'un exemplaire dans telle ou telle bibliothèque allemande, mais que certains travaux ont permis de mettre à jour et de publier. Il devient un soldat de la contre-réforme, c'est-à-dire disant qu'il est soldat du pape. Il n'y a que le pape, que l'autorité, que l'institution. Et alors, je crois que le tragique, c'est de voir Angelus Silesius, l'itinéraire d'Angelus Silesius, faire en quelque sorte, en sens inverse, ce qu'avait été son premier itinéraire. Il passait d'une contre-réforme institutionnelle et sclérosée, d'une réforme institutionnelle et contre-réformée, à une contre-réforme dans laquelle la mystique aurait pu avoir sa place. Et il aboutit à se faire le champion d'une autorité et le champion sans aucune nuance, sans aucune charité, appelant même à la guerre sainte contre tous les adversaires du catholicisme. Et cela d'ailleurs, et c'est d'autant plus frappant, à une époque complètement anachronique. Nous sommes à l'époque des paix de Westphalie, la guerre de 30 ans est terminée, plus personne n'a envie de recommencer la guerre sainte, et Rome encore moins que d'autres princes de l'Europe. Mais c'est le moment où Angelus Silesius se trouve le champion d'une contre-réforme violente, semblant oublier son expérience primitive et ses admirables poèmes qu'il avait publiés. Et pourtant, 2 ans avant sa mort, en 1675, nous avons une réédition des poèmes de 1657. Et là, chose curieuse, Angelus Silesius ne supprime aucun des poèmes, même les plus hardis et les plus téméraires même, qu'il avait écrits à la fin de son époque protestante, qu'il avait publié au début de son époque de converti au catholicisme. Il les republie, il y ajoute un sixième livre d'un ton un peu différent, où il n'y a plus très peu de distiques ou de quatrains, mais de longs poèmes dans lesquels la théologie tient plus de place peut-être que les fusions ou que les fulgurances mystique, mais il n'a pas supprimé un seul des vers qu'il avait publié. Il n'en a même pas corrigé. Ici ou là, il ajoute une note en bas de page, peut-être, pour donner une atténuation à ce qu'il avait publié, mais il assume encore à cette époque, donc peu avant sa mort, 1675, il est mort en 1677, il assume ce qui a été la plus grande audace de sa jeunesse. C'est là où je parlais tout à l'heure d'une sorte de tragique. Il fait en sens inverse ce que François de Sales avait demandé. François de Sales partait des controverses institutionnelles pour, par l'intermédiaire de la mystique, essayer de doubler le protestantisme. Là, Angelus Silesius part de la mystique pour aboutir à une controverse confessionnelle la plus sèche, la plus froide et la plus brutale.
Le bienheureux naufrage. Lances-tu ton esquif sur la mer Déité ? Tu seras bienheureux à l'heure d'y sombrer. La plus haute noblesse de l'homme. Ma plus haute noblesse est qu'ici-bas je peux être roi, empereur, Dieu et ce que je veux. Ce qui dilate l'âme. À quoi le cœur humain doit-il d'être si vaste, sinon à cet amour que Dieu lui donne d'être? La mort du moi fortifie Dieu. autant mon moi en moi languit et lâche prise, autant, du coup, le moi du maître se renforce. L'intérieur n'a pas besoin de l'extérieur. Qui aura retourné ses sens vers l'intérieur, entendra le nom dit et verra dans la nuit.
Très tôt, dans la famille d'Angelus et Lesius, on a remarqué que les Scheffler, c'est son nom, il s'appelle Johannes Scheffler, que les Scheffler étaient tous marqués par ce qu'on appelait à l'époque la mélancolie. La mélancolie avait frappé le père d'Angelus et Lesius, les gens de sa famille. Et il y a là, je crois, une autre forme de tragique dont Angelus et Lesius s'est échappé à la fois par l'expérience mystique, s'est échappé en changeant de confession, en essayant de chercher dans une autre confession, s'est échappé ensuite dans une sorte de confiance éperdue dans l'institution et dans les hommes, le pape et les évêques, et les hommes de l'institution, qui pouvaient lui paraître, à tort ou à raison, comme les seuls garants, les seules garanties de l'authenticité de l'expérience religieuse, comme si c'était devenu la seule branche à laquelle il put s'accrocher.
Mais lorsque vous faites allusion à la mélancolie familiale, si l'on peut dire, Jacques Lebrun, est-ce qu'il ne faut quand même pas souligner que c'est la mélancolie telle qu'on l'entend à l'époque,
oui, bien
et non
sûr.
Pas telle qu'on l'entend aujourd'hui, bien je veux dire, ce qui part du fameux problème 30 du pseudo-Aristote, oui. qui aboutit à quelqu'un comme Robert Burton avec son anatomie de la mélancolie. C'est-à-dire, en même temps, c'est la mélancolie, la bile noire, je dirais, qui donne du génie, et du génie au sens de l'époque aussi.
Certainement, et qui donne à la fois du génie et qui en même temps a des conséquences pathologiques, comme dans la famille. Non, j'ai lu, c'est juste chez certains. Et je crois qu'également, il y a là une sorte de tension extrême qui donne l'extraordinaire beauté de ces courts poèmes de deux vers d'Angelus et Lesius. Ce qui n'est pas à l'époque profondément original, la forme même du distique n'est pas profondément originale à l'époque. Il y a un certain nombre de poèmes, poètes silésiens, poètes germaniques, il y a Opitz, il y a Tchepko, par exemple, qui écrivent des quantités de distiques et la comparaison pour certains n'est pas scandaleuse avec le pèlerin chérubinique. Il y a des œuvres de qualité. Néanmoins, quand on compare les distiques d'Opitz ou de Tchepko, par exemple, avec les distiques d'Angelus et Lesius, on est frappé de la radicalité métaphysique de l'œuvre d'Angelus et Lesius. L'Angelus et Lesius ne se contente pas de limer en quelque sorte ou de sculpter un paradoxe comme le font ces poètes silésiens, Tchepko par exemple, qui écrit des monodistiques. Non, il ne s'agit pas simplement de faire une pointe qui frappe l'esprit, mais la pointe est en réalité l'image même de la pensée. L'opposition, le paradoxe, est dans la pensée. Et je crois que ce qui est extrêmement frappant dans Angelus et Lesius, et ce qui correspond assez bien, je crois, à ce que j'appelais tout à l'heure, d'un terme faute de mieux, du tragique de l'expérience et de la vie d'Angelus et Lesius, c'est que le tragique est à l'intérieur même de la pensée. Le paradoxe est dans la pensée. On se tourne vers Dieu, mais on est au-delà de Dieu. On se tourne vers les saints ou les anges, mais il faut toujours aller au-delà. Il y a une sorte d'insatisfaction et le désir, un des termes clés de cette œuvre dont j'ai laissé les yeux, c'est ce qu'il appelle la lauterkeit, la pureté. La pureté non pas simplement au sens de propreté, mais au sens d'atteindre en quelque sorte le diamant pur, d'atteindre quelque chose, le corps pur. Et ce corps pur, il ne peut jamais l'atteindre. Il faut toujours aller au-delà. Über, Manmus, Nord, Über, Gott. Aller au-delà de Dieu. D'où, évidemment, les inquiétudes que pouvaient avoir les lecteurs d'Angelus et Lesius. D'où également les réticences de grands lecteurs d'Angelus et Lesius, comme était Leibniz, par exemple. Mais les grands héritiers d'Angelus et Lesius, je crois, ce sont non pas seulement les théologiens ou les spirituels, mais ses grands disciples, c'est, je crois, Hegel, c'est Schopenhauer, c'est Heidegger près de nous, c'est encore Lacan qui ne cesse de citer Angelus Silesius tout au long de son œuvre. Et ce que Hegel trouve chez Angelus Silesius, ce que Schopenhauer y trouve, ce n'est pas l'expérience mystique au sens religieux même du terme, mais c'est cette sorte de radicalité de la pensée et cette insertion de la négativité dans la pensée. Il y a à la fois une chose et une autre. Il y a une chose et son contraire. Il y a une affirmation conduite à une négation. Et il ne peut jamais y avoir, on ne peut jamais atteindre même ce qu'est la pensée pure, la hauteur. On ne peut jamais l'atteindre et on va toujours au-delà.
La déité est un néant. Néant et surnéant est la déité frêle. Celui, crois-moi, qui en tout ne voit rien, le voit. Pour Dieu, tout est de même prix. Tout lui est un. Dieu ne distingue pas. À la mouche, il se donne tout autant qu'à toi. Dieu ne peut tout à lui seul. Dieu a créé le monde et peut l'anéantir, mais ne peut pas sans moi la nouvelle naissance. Chacun le sien. Le marin dit la mer. Le chasseur dit ses chiens. L'avaricieux, son or. Le soldat, ses blessures. Mais moi, épris de Dieu, rien tant ne me convient que d'avoir sans arrêt son amour à la bouche.
Vous disiez, Jacques Lorrain, qu'avec Angelus Silesius, souvent, une chose, il y a une chose et puis il y en a une autre. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au bout, je dirais, de cette figure bien connue de la logique traditionnelle, qu'on appelle le tétralème, c'est-à-dire d'arriver à l'idée qu'une chose n'est ni elle-même ni une autre. Et d'une certaine manière, on a l'impression que de ce point de vue-là, Angelus Silesius est quand même tout à fait sous l'influence de Jacob Böhm au début du... Oui. Du Mysterium Magnum, quand il parle de Dieu comme Ungrund, c'est-à-dire qui n'a pas de fondement, vous l'avez cité aussi, de quelqu'un comme Jean Tauler, le grand disciple de Maître Eckhart, qui parle de Grundlos, précisément, sans Grund, sans fondement, comme si d'une certaine manière il y avait une espèce de vertige de l'abîme.
Oui, certainement, vertige de l'abîme, et en même temps, Angelus Silesius se raccroche à un certain nombre de définitions théologiques dont il part et auxquelles il revient. Évidemment, il le dit, on pourrait multiplier les exemples de la divinité, la Gottheit, est grundlos, sans fond. Mais en même temps, il en revient à des définitions qu'il trouve lui-même et qu'il a lui-même présenté dans ses carnets. On a gardé les manuscrits d'Angelus Silesius. On a gardé les livres annotés par Angelus Silesius. Vous parliez de Tauler. On a le Tauler annoté par Angelus Silesius. Et l'on voit vraiment là la source de sa pensée particulière. Cela permet d'écarter non pas l'influence de Jacob Böhm, mais de montrer que l'influence de Jacob Böhm est médiatisée à son tour par l'influence des mystiques réno-flamands des mystiques espagnols. Et la comparaison entre les notes marginales et les distiques dans les poèmes nous permet de voir comment les poèmes ont eu leur source dans une élaboration qui était au départ une élaboration littéraire. La méthode humaniste qui était au départ de la recherche d'Angelus Silesius, cette méthode humaniste qui consistait à lire les textes antiques, latins, grecs, comme Heinsius et comme ces autres hommes dont il fait un grand éloge dans ses premiers textes de Genèse, eh bien, cette méthode humaniste, il l'a appliquée au texte mystique. Et je crois que Angelus Silesius n'est absolument pas un auteur, entre guillemets, spontané. Il n'écrit pas immédiatement sous l'effet de l'inspiration. Mais c'est le résultat d'un travail. L'inspiration vient parce qu'il y a eu le travail auparavant. Le travail méthodique, il a lu la Mystica Clavis du jésuite Sandeus, qui lui-même était une grande élaboration des mystiques antérieures. Donc c'est un auteur savant, je dirais un auteur savant, mais un auteur savant qui n'étale pas sa science, loin de là, mais qui a pu, à partir de sa science, faire une œuvre qui, elle-même, à ce moment-là, devient une œuvre spontanée. Et spontanément, ensuite, que l'inspiration vient, mais sur l'arrière-plan d'un travail extrêmement précis. D'où la minutie même du vocabulaire. Lorsque Angelus Silesius parle de Gottheit et non pas de Gott, parle de divinité, de déité plutôt, et non pas de Dieu, lorsqu'il compare la divinisation et la déification, à chaque fois, il faut savoir que Angelus Silesius a dans l'esprit ce qu'il a lu chez des auteurs et ce qu'il a élaboré dans ses carnets à partir de ses auteurs.
Ce qui est étonnant lorsqu'on s'intéresse à ce que dit Angelus Silesius, c'est de dire, vous nous le dites, Jean Tello, c'est d'abord et avant tout un poète, et en même temps, je dirais, du point de vue de la, je mets le mot entre guillemets, mais de la mystique, il relèverait plutôt de ce qu'on appelle la vision mystique, c'est-à-dire la mystique de l'essence. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de contradiction qui le travaille et qui fait exploser, si on peut dire, enfin exploser dans un sens tout à fait positif, son style, qui est que comment peut-on être un poète de l'essence lorsqu'en fait on ne peut rien dire.
Oui, c'est ça. Alors, tout à l'heure nous disions qu'on ne peut rien dire parce que Dieu est inexprimable. Bon, alors maintenant il faut également signaler qu'on ne peut rien dire parce que le monde n'est pas le lieu de la vérité. C'est-à-dire que ce que les mots nomment ordinairement et ce que les mots d'un poète tout particulièrement viennent à nommer, c'est l'extériorité du monde. Mais Angelus Silesius est de ceux qui se défient du monde et qui savent que le monde n'a pas en lui-même son propre principe et qu'il n'est pas autre chose qu'une image en tant qu'être créé. Alors, évidemment, c'est un poète de l'essence, et du coup, c'est la deuxième raison pour laquelle il ne peut rien dire, parce qu'il ne peut pas nommer les différents aspects du monde. Et c'est très frappant comme ce poète, pourtant, ne peut rien nommer au fond de ce que l'homme ordinaire sait aimer, les plantes, les étoiles, les beautés de l'architecture ou de la source ou de l'arbre ou du matin qui se lève. Il y a chez lui une telle spéculation, une telle défiance à l'endroit des réalités terrestres, un tel délaissement de l'extériorité qu'il n'a pas à nommer ce qui constitue le monde sensible et qui est pourtant le tuf ordinaire de la poésie comme elle va dans l'histoire de l'Occident. Alors là, maintenant, Angelus Silesius ne va plus dire qu'une chose, c'est « il faut se taire ». Remarquez, ça fait déjà pas mal, « il faut se taire », parce que il faut se taire sur tous les tons, parce que, d'une part, Dieu lui-même ne parle pas sur le mode de la représentation des mots, et parce que, d'autre part, parlant, on nommerait l'extériorité du monde, qui n'est pas, pourtant, le lieu de la vérité. Alors, il faut se taire, tais-toi, et tu entendras à jamais l'éternelle parole. C'est une ascèse, c'est une contradiction, disons, c'est un débat avec les virtualités du langage. Et il y a une beauté mais presque souveraine de ce désert de la parole. Au fond, Angelus Silesius ne dit rien parce qu'il veut témoigner d'un dire antérieur au dit. Il ne dit rien parce qu'il veut témoigner d'un dire antérieur au dit. Comment dirais-je, cette possibilité donnée à ces deux fois douze syllabes de jamais ne rien dire, des temps de jamais ne rien dire, de thématisable, qui fait la beauté extraordinaire de son poème.
Des roses, les roses, je les aime, les blanches, les rouges, tel mon fiancé sanglant, rose lourde d'épines.
Die Liebe zwingt Gott, l'amour force Dieu. Wo Gott mich über Gott nicht sollte wollen bringen, so will ich ihn dazu mit blosser Liebe zwingen. Si Dieu ne me voulait porter par-delà Dieu, je saurais les forcer par simplement l'amour. »